Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver sur Radio Imo, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Mag au carré. Je suis évidemment avec Audrey Jourdain, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Comment allez-vous Audrey ?
Eh bien très bien, ravie de parler du marché des bureaux aujourd'hui.
Et oui, nous allons, c'est le thème de notre émission, le marché des bureaux. On va voir la tendance, justement. On va commencer par présenter nos invités. Alors, Diego Roux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Managing Director et Directeur Transactions France pour Union Investment. Et Yves Ferré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant fondateur d'Alex Bolton. Et donc, voilà, le marché des bureaux, on va tout savoir grâce à vous de ce secteur. Mais tout de suite, on commence avec votre édito, Audrey.
Le Mag au carré, l'édito d'Audrey.
Peu réjouissant. Malheureusement, les chiffres du premier trimestre du marché immobilier des bureaux le sont. Seulement 1,7 milliard d'euros ont été investis dans des murs de bureaux situés en France, soit une chute de 40% sur un an et de 30% par rapport au premier trimestre 2019. Même souffrance pour le marché de la demande placée francilienne, qui a subi une fluctuation négative de 30% sur un an et de 26% par rapport à la moyenne décennale. Alors pourquoi ? Il y a de multiples raisons, mais la classe d'actifs bureaux souffre de quatre principaux maux. Le premier mal, les acquéreurs subissent le rehaussement des taux d'intérêt et le renforcement des conditions d'octroi de prêts. Deuxième mal, la correction des valeurs vénales ralentit le marché de l'offre. Troisième, les acquéreurs font toujours face aux incertitudes portant sur les conséquences de l'expansion du télétravail. Quel sera son rythme d'adoption à moyen et long terme? Les déménagements en région vont-ils s'intensifier, etc. Et quatrième mal, les acquéreurs sont freinés par les incertitudes portant sur l'évolution de la situation économique et entraînent notamment des interrogations sur la solidité à venir des preneurs.
Voilà, un climat incertain. On va tout de suite débriefer avec nos invités.
Les invités du carré.
Alors, on va commencer avec vous, Diego Roux. Peut-être vous allez nous présenter Union Investment et puis plus particulièrement la filiale française.
Bien sûr. Donc, Union Investment, c'est une filiale de DZ Bank. DZ Bank, c'est une banque allemande. C'est la deuxième banque en termes d'actifs sous gestion en Allemagne. Pour donner un ordre d'idée, Union Investment, c'est à peu près 400 milliards d'actifs sous gestion. En immobilier, ça représente à peu près 50 milliards, un peu plus de 50 milliards. Et en France, en immobilier, notre patrimoine, c'est environ 4 milliards d'actifs sous gestion. Parmi nos actifs les plus emblématiques, on a Paris Trocadéro, le centre d'affaires, c'est environ 40 000 mètres carrés, du résidentiel, du retail, du bureau. Paris Victoire aussi. Qui a un autre centre d'affaires très proche d'ici d'ailleurs et qui a fait l'objet du plus gros bail l'année dernière, il me semble, parce que c'était 13 000 mètres carrés signés en 2022 avec le CIC. Donc voilà, Union. On a fait pas mal d'acquisitions récemment. Je dirais qu'on a un ADN un peu bulle tout corps, parce qu'à travers l'Europe, je crois qu'on a fait, enfin, à travers le monde, 4 milliards d'acquisitions l'année dernière pour 4,5 milliards de levées de fonds, 50% étaient actifs vacants à restructurer. Et en France, ça s'est traduit à peu près par la même chose, c'est-à-dire que on a acheté récemment 5-7 coques, qui est un actif qu'on a sorti locataire, on a posé un permis qu'on va restructurer. Pareil pour 59 Haussmann, qui était le siège du Crédit du Nord. Donc même schéma, locataire va partir l'année prochaine et un permis est en cours d'obtention pour commencer les travaux dès la sortie locataire. Ou encore une VFA qu'on a acquis récemment à Lyon, pardieu. 13 000 mètres carrés de bureaux auprès d'ICAD et de Sogeprom, une VFA en blanc. Donc c'est vraiment ça notre ADN aujourd'hui.
Donc là, vous avez cité Paris, Lyon. Il y a d'autres endroits en France où
on regarde toutes les grandes métropoles. On a des actifs, par exemple, on a dans des hôtels. On a un hôtel à Marseille. On a la logistique à la proximité de la frontière allemande. On avait acheté une VFA aussi à Lille. Donc on regarde toutes les grandes métropoles régionales.
D'accord.
Mais c'est majoritairement Paris et majoritairement bureau.
Donc c'est ce qu'on peut dire, voilà, quand vous faites un benchmark, c'est essentiellement sur ces deux villes-là. Quelle est votre stratégie d'investissement globale ?
Alors globalement, ce qui se passe, c'est que nous, on cherche à faire de plus en plus de diversification. C'est-à-dire que si autrefois le bureau ça représentait à peu près 60% du portefeuille d'une aile globalement à travers le monde.
Depuis le Covid, forcément, ça c'est.
Bah, depuis le Covid, on cherche à faire plus de logistique, plus de résidentiel, plus de.
Pour maintenir une rentabilité élevée.
Ouais, non, et surtout pour pouvoir se diversifier, avoir plus de liquidité. Ouais. Et ça implique que du coup, on s'est concentré aussi sur les actifs peut-être un peu plus petits récemment.
Par exemple.
Avant, bah, c'est-à-dire qu'avant, on faisait des très gros bébés de plus de 200 millions d'euros. Aujourd'hui, là, on regarde des actifs dans le CBD de 50 millions d'euros de volume, j'entends. On a acheté l'année dernière une petite VFA d'une quarantaine de millions d'euros dans le 11e. Voilà, c'est des choses qu'on faisait pas avant. On regarde du résidentiel, donc automatiquement des blocs rési, trouver des blocs rési qui font plus de 50 millions d'euros, c'est très compliqué.
En VFA ou non ?
En VFA, en blanc, faire ce qu'on appelle du bull to rent. Mm. Ça, on aime beaucoup. On a aujourd'hui un portefeuille résidentiel de 2 milliards à travers l'Europe. On a fait 300 millions d'euros d'acquises l'année dernière en résidentiel, uniquement en bull to rent.
Et les pays que vous préférez pour le résidentiel ?
Bon, on aimerait bien la France. C'est vraiment, la France, c'est notre deuxième marché après l'Allemagne.
D'accord.
Donc c'est vraiment un marché très important. Après, ça a été vraiment très compliqué de trouver des actifs. Là, on espère en avoir trouvé un, mais c'est vraiment très très compliqué de trouver des actifs en bloc dans des bonnes localisations. Oui. Je pense qu'il y a des volontés politiques qui font que c'est compliqué.
Alors c'est vrai que la localisation joue beaucoup, hein, parce que forcément, quand c'est une localisation moins recherchée, il y a un risque de vacances locatives ou justement des loyers pas perçus. Donc ça, forcément, ça rentre dans votre analyse, j'imagine.
Union, on se considère. Alors, j'ai dit qu'on avait un Delbune tout corps, mais en termes de localisation, on est un investisseur ultra corps. Enfin, pour nous, sortir de Paris, c'est très compliqué. Mmh, alors, en résidentiel, c'est pas du tout ce qu'on recherche parce qu'il y a des loyers qui sont plafonnés, etc.
Oui, donc à Paris, c'est compliqué de trouver
mais
des ventes.
La première couronne ouest, typiquement, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup. D'accord. Et on regarde beaucoup de produits en première couronne ouest. Résidentiel.
Quand vous parliez de la logistique tout à l'heure, alors on sait que c'est un secteur très porteur, hein, avec une année 2021 qui a explosé tous les records. En revanche, c'est difficile aussi de trouver des actifs.
Alors c'est très compliqué. Je pense qu'il y a encore une déconnexion entre l'offre et la demande. Du coup, nous on a essayé beaucoup d'acheter de la logistique l'année dernière. On n'a pas réussi. On est rentré dans des exclus. Ça n'a pas marché.
Pourquoi ? C'était trop élevé.
C'est plus que il y a, enfin, acheter des VFA en logistique, c'est pas toujours facile, mais c'est un peu comme en résidentiel, parce que c'est un monde qui est en train de s'institutionnaliser, donc ça peut être un peu compliqué, donc c'est ça qu'on peut rentrer dans les exclus et pas nécessairement aller jusqu'au bout. Mais c'est quelque chose que Union, on n'aime pas faire. Mais, et puis c'est compliqué parce que finalement, les taux sont montés très très rapidement. Je crois qu'on a pris 100 bips en quelques mois. 100 points en quelques mois, et du coup, c'est très compliqué de trouver chaussures à nos pieds.
Voilà. Un sujet dont on parle énormément en ce moment, dans tous les secteurs, la décarbonation du bâti. Alors, qu'en est-il de vous ? Qu'en est-il chez Union Invest de la décarbonation de votre parc, alors de bureaux, pour commencer ?
C'est compliqué parce qu'en fait on fait en ce moment beaucoup d'audits. Il y a beaucoup d'audits qui sont lancés depuis l'Allemagne. Ce que je peux vous dire, c'est que du point de vue des acquisitions,
juste des audits pour établir
exactement pour savoir où est-ce qu'on en est et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Nous, on a pris ça très 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 au sérieux. Je pense qu'on fait partie des premiers investisseurs à avoir vraiment regardé ça. Pourquoi ? Parce que par exemple aujourd'hui, pour toutes nos nouvelles acquisitions, on cherche à être conforme à la taxonomie européenne.
Alors en Allemagne, je crois que les Allemands ont une longueur d'avance sur nous. Hein. La rénovation énergétique avait commencé bien avant France.
Je dirais plus pour les acquisitions, peut-être moins pour le portefeuille existant. D'accord. Parce que pour le portefeuille existant, je pense que ça va comme tout le monde. On essaye, on met beaucoup d'argent en ce moment pour passer des critères tertiaires.
Parce que le résidentiel était très, en Allemagne était très porté là-dessus, il me semble.
Oui, mais la France aussi. Enfin, moi, je regarde les DPE en France, ils sont quand même très... Enfin, pour avoir un DPE A en France, c'est quasiment impossible.
Bien sûr. En Hollande, même dans le 9, hein.
En Hollande, tous les bâtiments sont DPE A. C'est juste que c'est pas les mêmes niveaux d'exigence. C'est
d'accord.
Tout. Donc en fait, je pense qu'en France, on est très exigeant. Je pense que la loi est très bien faite, etc. Maintenant, nous, pour notre portefeuille, on met de l'argent déjà pour le décret tertiaire, parce qu'il y a un décret tertiaire qui arrive en 2030. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, là, on a restructuré un bâtiment, on a mis 50 millions d'euros dedans. On a rajouté 10 millions d'euros là pour le décret tertiaire. Après, qu'est-ce qui fait partie de l'ESG ? Qu'est-ce qui fait partie de la restructuration ? C'est très compliqué. Mais on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans en ce moment dans les produits pour pouvoir leur faire passer un cap. Et pour de nouvelles acquisitions, donc le CREM, c'est très important, la taxonomie, c'est très important. Les décrets tertiaires, on regarde ça dans le détail. Il y a aussi le nouveau PLU bioclimatique. C'est important, on regarde ça aussi. Et c'est vrai que je pense qu'on a fait partie des premiers investisseurs à vraiment aller loin, à demander, même lors de phases projet, d'avoir des DPE futurs, être sûr qu'on sera dans du A ou dans du B. Je pense qu'il y a très peu d'investisseurs qui le faisaient. Je pense que ça devient un peu plus la norme. Et je vois maintenant que même les banques qui ont levé des green bonds ont besoin en face de savoir les projets, ça va être quoi, quelle va être la consommation demain de ces bâtiments. Et ça, je pense que c'est, ça va devenir de plus en plus important dans l'immobilier. Et ça prend une part de plus en plus importante.
Nous, on reçoit des banquiers et des coursiers qui travaillent avec les banques. On reçoit les deux et c'est vrai qu'ils nous disent que maintenant, c'est la première chose qu'ils demandent.
Nous, c'est pareil. Dans le phase du due diligence, c'est la première chose qu'on demande. Et je vois, enfin, je me rappelle, il y a 10 ans, 15 ans, dans les BP, on mettait 2 000-2 500 euros du mètre pour faire de très grosses restructurations. Aujourd'hui, on met plus de 4 000, je vois que ça tend vers 5 000. Et il y a une part due à l'inflation, mais aussi une grosse part qui est due à l'ESG. Et je vois bien qu'aujourd'hui, tous les investisseurs, ça préoccupe tous les investisseurs, même les promoteurs.
L'ESG, quand vous parlez de l'ESG, c'est pour les entreprises labellisées ou
Non, l'ESG, c'est un peu tout, c'est l'environnement, mais c'est aussi le sociétal. On voit des bâtiments où on a besoin d'avoir des crèches, des bibliothèques, etc. Parce que c'est comment vivre ensemble, comment faire de la mixité ensemble. Il y a aussi, l'environnement, les labels. Nos dernières restructurations, on est tous BBCA, donc c'est bâtiments bas carbone. C'est des choses qui sont... aujourd'hui, c'est la norme pour toutes les restructurations, pour tous les bâtiments qui arrivent sur le marché.
Et à quel point le coût de cette rénovation vous impacte ?
Ouais, c'est ça que je vous disais, c'est très compliqué de le savoir parce que nous on travaille toujours notre portefeuille. Donc on a des travaux continus sur le portefeuille. Après, quelle est la part de l'ESG, quelle est la part du changement de l'équipement en soi, c'est très compliqué. Mais pour reprendre cet exemple, ça représentait, c'est un investissement pour le décret tertiaire qu'on a fait, ça représente à peu près 6% du cash flow annuel du bâtiment pendant les 6 prochaines années, jusqu'en 2030.
D'accord, jusqu'en 2030, oui, date fatidique. Très bien. Yves Ferré, alors pouvez-vous nous présenter Alex Bolton ?
Avec plaisir. Donc Alex Bolton, une société que j'ai créée avec Bertrand Le Gall il y a 17 ans. Nous avions tous les deux une longue et assez longue expérience en immobilier entreprise. C'est une société donc qui fait du brokerage. On est spécialisé en brokerage.
Alors, expliquez-nous ce que c'est pour nos auditeurs qui ne...
Qu'est-ce que le brokerage? C'est de faire des transactions et du conseil en immobilier et plus particulièrement en immobilier entreprise. On est agence pour l'immobilier entreprise. Voilà. Je pense que pour vos auditeurs, ce sera assez clair et assez parlant. On est très spécialisé dans notre ADN bureau Paris. Voilà. Ceci étant, on s'est depuis 15 ans diversifié. Donc, on s'est diversifié sur l'Île-de-France en général et sur les régions. On a deux activités dans notre activité de brokerage. Une activité de transaction locative et de vente utilisateur à Paris et dans les communes ouest limitrophes, jusqu'à la Défense, c'est-à-dire ici le Meneau, Boulogne, le Valois et Neuilly, et les quartiers parisiens. Ça, c'est pour la partie agence, donc location et vente utilisateur. Et puis, on a une partie capital market qui intervient dans toute la France. On est parti du constat que l'immobilier entreprise était un secteur particulièrement centralisé. Déjà, la France est centralisée, mais l'immobilier entreprise encore plus. Les acteurs sont à Paris pour la plupart, quelques-uns à Lyon.
C'est en train de changer.
C'est en train de changer, peut-être. Sont à Paris. Donc, il est bon pour nous de traiter des opérations qui se trouvent en région où nous avons effectivement connaissance des investisseurs vendeurs ou acquéreurs qui se trouvent à Paris.
Alors, on est en train d'assister, enfin, on assiste à un véritable changement de paradigme au niveau financier. Justement, comment se porte le marché du bureau parisien avec cette inflation qui a mis fin, on peut le dire, à une décennie de politique monétaire expansionniste ?
Alors, le marché parisien, le marché en Île-de-France est un marché un peu à deux vitesses. Il y a le marché parisien, je dirais, qui est un Paris intramuros, qui est une sorte de village gaulois, qui résiste particulièrement bien, pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que la ville de Paris est très vigilante sur la création de nouveaux bureaux dans Paris. Et en fait, sur les arrondissements centraux, le parc de bureaux n'est pas supérieur à ce qu'il était il y a 40 ans. Alors que la demande tertiaire, le développement tertiaire, entre maintenant et à 40 ans, n'a rien à voir. Donc, ce qui conduit à une rareté des bureaux dans Paris. On a un taux de vacance qui est bas, qui n'est pas historiquement bas, mais qui est de l'ordre de 2,4%, ce qui est très bas. En comparaison à d'autres marchés, notamment les marchés périphériques, des marchés comme la Défense, des marchés aussi comme Péridéfense, où depuis 30 ans, énormément de bureaux sont construits. Par exemple, le parc de bureaux à la Défense a doublé en 20 ans. Voilà, à Paris, il est à peu près identique. Voilà. Et aujourd'hui, avec le développement du télétravail, le développement des habitudes de travailler qui sont différentes, avec le flex-office, avec un certain nombre d'éléments de ce type, tous ces éléments ont accentué le taux de vacances dans ces secteurs périphériques. Et le taux de vacances est de l'ordre de 15%. Donc 15% dans ces secteurs versus 2,5% à Paris. Voilà. Donc c'est vraiment un marché un peu à deux vitesses. Alors, pour nous recentrer sur la location, la location dans Paris a très bien fonctionné l'an dernier, en 2022. On peut tout de même penser qu'il y a eu un rattrapage, puisqu'en 2020-2021, il y avait beaucoup d'incertitudes à cause du Covid. Donc, les entreprises, les chefs d'entreprise dont je fais partie, hésitaient à bouger, en se disant comment on va sortir de la crise. Puis en 2022, en tout cas au début de l'année, au premier semestre, on va dire, il y a eu un vent d'optimisme qui a conduit les entreprises à déménager, à réfléchir, à aller au bout de leur réflexion de bureau. Bon, notamment, il y a eu un certain nombre d'entreprises qui se sont dit « Nous, on est Ernst & Young, on est à la Défense, on occupe 45 000 m², il faut se recentrer sur Paris pour accueillir les talents. » Mais en contrepartie, on va libérer en 2025 45 000 m² de bureaux pour prendre 25 000 m² rue de Courcelles. Vous voyez, transaction assez révélatrice de l'environnement général. Donc, il y a eu un volume de transactions très bon l'an dernier, en 2022, à Paris. Donc, avec ce rattrapage, le premier trimestre cette année a été difficile puisque la demande placée à Paris a baissé de l'ordre de 35%. Donc, il y a une vraie baisse. Difficile pourtant d'en tirer des conséquences puisque le taux de vacance est faible. Donc, il dit taux de vacance faible, peu de produits. Donc, les sociétés ont un peu de mal à déménager parce qu'il y a très peu de choses. Et cette rareté risque de s'accentuer, parce que dans Paris intramuros, il y a assez peu de nouveaux...
On peut pas construire.
Nouveaux produits, on peut pas construire. Les restructurations sont très difficiles. La ville de Paris est très exigeante. Dès qu'il s'agit de transformer ce qu'on peut dire, entre guillemets, de faux bureaux en bureaux...
On a une maire qui facilite pas, on va dire.
On a une maire qui facilite pas les choses et qui a des objectifs qui sont autres. Et l'objectif, c'est, comme vous le savez, c'est développer la mixité sociale dans Paris et développer les logements sociaux. Donc, il y a des freins qui sont donnés. Là encore, on a un exemple. J'ai un exemple qui date d'aujourd'hui. J'ai un de mes clients qui se positionne sur un immeuble de 2000 m² sur lequel il pourrait développer 1000 m². La ville de Paris lui a dit, vos 1000 m², vous allez faire du social. Donc, effectivement, le prix de vente n'est plus du tout, enfin, le prix d'acquisition n'est plus du tout, plus du tout le même.
Alors, ma prochaine question, vous l'avez un petit peu abordée. Vous parliez des QCA, les quartiers centres d'affaires qui sont moins demandés par les entreprises. Forcément, elles préfèrent, elles essayent de recruter des talents. Donc, les talents, ils veulent quoi? Ils veulent être proches du centre-ville, ils veulent être proches des gares aussi. Vous avez évoqué le télétravail. C'est vrai que certains des collaborateurs ont déménagé. Voilà. Quelles sont les autres exigences actuelles de ces utilisateurs et des collaborateurs aussi?
Ils veulent être effectivement près des gares, ils veulent être aussi près de leur domicile pour éviter de se déplacer. Ils habitent souvent, la génération des, on va dire, 25-35 ans, habitent souvent dans des petits appartements, mais en centre-ville, qui doivent être près de leur bureau. Ça fait partie de leurs exigences. Il y a aussi ce que souhaitent aussi les collaborateurs, c'est beaucoup de flexibilité, beaucoup de flexibilité à l'intérieur même des bureaux. Ce que souhaitent aussi, c'est des espaces communs où on peut échanger. Ça, c'est important. Oui. Les bureaux présentent des espaces communs. Pas mal d'événements aussi, des bureaux qui sont un peu réversibles.
On parle de flex-office.
Oui, on parle de flex-office ou de bureaux un peu réversibles. C'est-à-dire, vous décidez de faire un centre de conférence, vous allez faire aussi un espace qui peut être un espace de travail. Et effectivement, ça, c'est dans les critères que demandent les entreprises. Et les entreprises demandent aussi d'avoir des bureaux un peu flexibles pour pouvoir effectivement s'adapter à leur activité, c'est-à-dire des bureaux plus ou moins grands. Et là, ce qui est assez vertueux, c'est que souvent, il y a un mix sociétés de coworking et sociétés traditionnelles qui peuvent justement se moduler entre elles pour que l'activité fonctionne bien.
Donc là, c'est ce qu'on appelle l'impact de l'hybridation, en fait.
C'est l'impact de l'hybridation, absolument.
Est-ce que, selon vous, alors c'est votre avis, hein, cela va durer ou c'est un phénomène éphémère ?
Alors, je pense que ça va durer. J'ai une petite réserve, moi, sur le télétravail. Il y a certaines entreprises qui viennent sur le télétravail. Je crois que JP Morgan, Monde, a décidé de ne plus faire de télétravail. Certains sont un peu sceptiques. Moi, j'en fais
Elon
partie.
Elon Musk.
Moi, je fais partie un peu de ceux qui sont sceptiques. Nous, on est une PME de commerciaux, consultants. Ouais. Donc, c'est pas leur truc, le télétravail. En plus, ils ont la chance d'habiter à côté de leur lieu de travail. Donc, ils n'ont pas cette problématique de temps de transport qu'ont certains salariés qui habitent à 1h30 de leur lieu de travail. Il n'y a pas cette problématique. Et eux sont très attachés à l'échange qu'on peut avoir dans l'entreprise. On a toujours, moi, depuis que je travaille, on me dit la culture d'entreprise, c'est très important. Alors, si vous avez une culture d'entreprise, vous êtes la moitié du temps chez vous. Je pense que ça conduit à l'individualisme. Il y a moins de communication interne. Et on peut être un peu réservé sur ce concept. Alors, quand il s'agit de faire du télétravail une journée par semaine, par exemple, ça peut fonctionner, mais il y a des entreprises qui sont passées pratiquement à 3 jours de télétravail par semaine. Et ça peut devenir un peu plus compliqué.
Donc, pour vous, un jour de télétravail par semaine, ce serait le bon équilibre ?
Moi, je pense que c'est... Alors, c'est difficile d'être aussi
catégorique,
mais je pense qu'une journée de télétravail, c'est bien, oui, pas plus, à mon avis.
Hugo, vous, votre avis ? Je vous vois faire des mouvements de tête.
Non, mais c'est vrai qu'on a tous été un peu loin et qu'on revient un peu en arrière.
Oui, clairement, on rétropédale là.
On rétropédale un peu, je pense que pas totalement. Moi, je pense que ça fonctionne bien le télétravail.
Ça dépend des secteurs aussi.
Qui sont les employés. Enfin, ça dépend de plein de facteurs, je suis d'accord. Je trouve que 2 jours, c'est pas mal aussi. Il y a des employés qui n'ont pas envie de venir le lundi parce que c'est compliqué, c'est beaucoup de transport. Le week-end n'est pas fini.
C'est un peu le risque.
Le week-end commence.
Le lundi, c'est.
Oui, commence trop tôt, vendredi. Mais moi, je pense que ça fonctionne bien. Maintenant, on a plein. Enfin, Teams, par exemple, on voit quand les gens sont connectés, quand les gens travaillent, il y a des calls, ça peut être beaucoup plus efficace. Moi, j'ai commencé dans un monde où on passait des heures en réunion. Et maintenant, on a des teams, c'est beaucoup plus soutenu, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus efficace. Ça a quand même révolutionné notre vie. Donc le télétravail, c'est pas si mal non plus. Je pense qu'il y a un entre-deux, quoi. Voilà.
Alors, on a beaucoup parlé, pour finir avec vous, Yves, du premier semestre. Selon vous, une estimation pour le deuxième semestre parisien ?
Alors, pour Paris Intramuros, on parle de Paris Intramuros. Alors, moi, je pense que les entreprises ont été un peu attentistes, là, pour le coup, depuis le début de l'année. Je pense que ça va repartir. On l'a vu au premier trimestre, il n'y a pas eu de transactions au-dessus de 5000 m², ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Là, il y a des transactions dans Paris Intramuros, essentiellement de sociétés de luxe, Chanel et LVMH qui ont pris chacune 12 000 m² dans le centre de Paris. Je crois que pour Chanel, c'est en cours. Et vous avez une troisième transaction aussi qui a été faite, c'est Eurazeo sur 8 000 m² dans le quartier des Champs-Élysées. Donc il y a des transactions très significatives qui ont été faites dans Paris et je pense que le marché parisien sera bon. Le marché locatif parisien sera bon jusqu'à la fin de l'année. Les sociétés vont bouger. Je pense que ce soit les activités de M&A, même s'il y a là les sociétés d'avocats, les sociétés financières en général, les sociétés de luxe, c'est des moteurs dans Paris.
Bien sûr.
Et donc, il n'y a aucune raison, dans un marché de rareté, que le marché parisien locatif s'essouffle. On peut même penser qu'il peut y avoir une légère tendance à la hausse des valeurs locatives. Là, il y a plusieurs transactions qui sont faites au-dessus de 1000 m² sur des surfaces très significatives, au-dessus de 10 000 m², ce qui n'était pas le cas auparavant. On parlait de 1000 euros du mètre carré, mais ça restait des transactions très ponctuelles, plutôt de petites surfaces. Là, c'est vraiment admis que louer à 1000 m² n'est pas décalé par rapport à la situation économique, par rapport au marché. Et ce qu'on peut dire aussi sur ces valeurs locatives, pour prendre l'exemple du 112 Kléber de Diego, nous avons loué 2000 m² au 112 Kléber en fin d'année avec Lint. Eh bien, le loyer économique de Lint n'est pas supérieur à celui qu'il avait il y a 30 ans. Donc, le taux d'effort des entreprises n'est pas insurmontable. Vous voyez ?
D'accord. Mmh. Ah oui.
Voilà,
il y a 30 ans.
Il y a 30 ans. Le taux d'effort des entreprises, en fait, est bien inférieur aujourd'hui par rapport à 30 ans. Voilà, ce qui était. Donc, pour l'entreprise, supporter des loyers pour des entreprises saines, un peu de luxe.
Après, ça dépend des entreprises aussi.
Mais ça a toujours dépendu des entreprises à Paris. Il y a toujours eu des entreprises plutôt saines que à Paris, plutôt de qualité. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème pour un LVMH, pour un Chanel, pour un Hermès de supporter des loyers de 1 000 euros. Et pour des entreprises moins emblématiques, je pense aussi que le taux d'effort est faible. Moi, je vois le taux d'effort de mon entreprise, il est de l'ordre de 1%. 1% de taux d'effort lié au loyer, c'est très bas. Donc, c'est pour ça, on dit que les loyers sont très élevés à Paris, mais il y a quand même ce modérateur qui sont les franchises qui fait que les loyers reste acceptable par l'entreprise.
Oui, Paris Restauration à Paris, voilà. Attirera toujours le fly to quality.
C'est pas décalé, il n'y a pas de problème de solvabilité aujourd'hui pour les sociétés à Paris.
En revanche, j'imagine que vous êtes moins optimiste pour la première et la deuxième couronne.
Bah, je suis moins optimiste déjà, ce sont des grands groupes. Donc des grands groupes qui rationalisent leur surface pour les raisons qu'on a évoquées d'une part et qui d'autre part peuvent beaucoup négocier parce que il y a un marché qui est offreur qui dépasse pratiquement partout peut-être sauf à Neuilly-sur-Seine 8% et souvent c'est des taux de vacances de 12 à 15% qui fait que on est bien au-delà du point d'équilibre qui est de 6% de taux de vacances ou 6% on est dans un marché locatif qui est un peu flat alors que quand on est à 15% on est plutôt dans un marché locatif qui est baissier. Donc il y a des franchises, notamment des franchises qui sont accordées, qui sont très longues, quelquefois qui peuvent paraître un peu disproportionnées pour des néophytes qui n'en reviennent pas, qu'on ne paye pas de loyer pendant des mois, voire des années. Mais c'est ça l'immobilier, enfin c'est l'immobilier de bureau aujourd'hui en périphérie sur la plupart des communes.
Voilà. La part des mesures d'accompagnement au premier trimestre sur le marché francilien était de 24%.
Voilà, donc 24% sur un bail de vent, ça fait des durées extrêmement longues qui sont largement supérieures à 2 ans, vous voyez.
Eh bien, merci beaucoup Yves Ferré, merci Diego Roux, merci beaucoup Audrey Jourdain pour cette émission sur le marché des bureaux. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.
Merci Bérénice.
Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.